VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guériec en direct de Washington DC. Il est 17h30 temps universel, le monde aujourd'hui, édition du mardi 12 décembre 2017. Au sommaire ce soir, Soudan du Sud, plus de 170 tués en une semaine de combat entre clans rivaux dans le centre du pays. Ici aux États-Unis, un scrutin très suivi en Alabama où les électeurs doivent élire leur second sénateur. Retour sur l'attentat hier à New York, le suspect était inconnu de la police du Bangladesh. Sommet sur le climat en France, nous sommes très loin de l'objectif de l'accord de Paris, dit le président français Emmanuel Macron. Ne ratez pas dans 10 minutes la Minute Éco et des sports, mais d'abord le journal. En Centrafrique, de violents affrontements ont eu lieu depuis dimanche à Ndassima, dans le centre du pays. Il n'y a pas de bilan précis, mais Gaëtan Boad, le chef du Rassemblement des Républicains, un groupe anti-Balaka, a été tué. L'information a été confirmée par une source onusienne. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme sur la situation en République démocratique du Congo. 400 000 enfants sévèrement mal nourris risquent de mourir dans le Kasaï, estime l'organisation. La situation désastreuse a été largement causée par la violence, les déplacements massifs et la réduction de la production agricole au cours des 18 derniers mois, selon l'organisation. Et de son côté, l'Office des migrations internationales signale des déplacements records de population, des centaines de milliers d'enfants en danger de mort, des ONG sous-financées, États sans moyens, des signaux qui, selon l'organisation, laissent redouter une crise humanitaire de grande ampleur en RDC en 2018. Et RDC toujours, des peines allant de 20 ans de prison à la perpétuité ont été requises contre une dizaine de miliciens poursuivis pour viol massif d'enfants dans l'est du pays. Parmi eux, le député provincial Frédéric Batoumiké. Le verdict de ce procès se tient devant une juridiction militaire près de Bukavu et sera annoncé demain. Au Togo, la coalition de l'opposition qui manifeste depuis plus de 3 mois contre le président Fornia Singbe a boycotté aujourd'hui les consultations entamées par le gouvernement en vue d'un dialogue dénonçant une manœuvre de diversion. Au Nigeria, 4 personnes ont été tuées par l'explosion d'un obus de mortier dans un camp de déplacés à Poulka, à une centaine de kilomètres de Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno. Médecins sans frontières a affirmé avoir reçu 5 patients à la suite de l'attaque qui avait fait 3 morts et 7 blessés. Au cours du week-end, au moins 6 soldats nigérians ont été tués dans 2 embuscades tendues par des membres présumés de Boko Haram. Dans l'extrême nord du Cameroun, 2 civils ont été tués hier dans un attentat suicide dans une mosquée de Kerawa à la frontière du Nigeria. Les attaques imputées aux djihadistes de Boko Haram sont fréquentes dans le nord du Cameroun. Puis en Somalie, un journaliste de la télévision a été tué hier par l'explosion d'une bombe placée dans sa voiture à Mogadiscio. Mohamed Ibrahim Gabo, qui travaillait pour Kalsan TV, est le 5e journaliste assassiné cette année en Somalie. Au Soudan du Sud, l'état d'urgence est décrété dans le centre après la mort de plus de 170 personnes dans des affrontements pour du bétail. Le point avec Blanche Sanou.
Le gouvernement de Juba a déclaré l'état d'urgence dans la région avec le déploiement de soldats. Les autorités locales ont été débordées par les affrontements entre des clans d'éleveurs qui s'attaquent à coups de mitrailleuses et lance-grenades pour voler du bétail et se livrer au pillage. Un bilan fait état de quelques 200 blessés, des maisons brûlées et des habitants forcés de fuir leur village. Selon le porte-parole présidentiel Atteni Wek Atteni, l'état d'urgence vise à mettre fin à la violence. Les communautés pastorales au sud du Soudan mènent régulièrement des attaques suivies de représailles. Cette tension accentue le climat d'insécurité dans ce pays, théâtre d'une guerre civile depuis fin 2013.
En Tunisie, un soldat a été tué et 6 autres blessés par une mine dans la zone montagneuse de Chambi, considérée comme un des principaux maquis des djihadistes en Tunisie. C'est ce qu'a annoncé le ministère tunisien de la Défense. Amnesty International a accusé les gouvernements européens de complicité dans la détention des migrants dans des conditions épouvantables en Libye, leur reprochant notamment leur aide aux gardes-côtes libyens, impliqués selon Amnesty dans le trafic d'êtres humains. Et concernant Concernant la Libye encore, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a assuré que la Russie fera tout pour une entente entre camps rivaux pour tenter de sortir ce pays du chaos et d'une grave crise politique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, une élection sénatoriale cruciale se déroule en Alabama. Un scrutin dominé par les accusations d'agression sexuelle contre le candidat républicain Roy Moore. Le point avec John Lindon.
Les démocrates veulent profiter du scandale créé par les allégations d'attouchement sur mineurs à la fin des années 70. Accusation que Roy Moore a rejetée en bloc. Âgé de 70 ans, Roy Moore a été élu deux fois président de la Cour suprême de l'Alabama. Il en a été déchu par deux fois pour avoir refusé de retirer une statue en l'honneur des 10 commandements et pour avoir défié la Cour suprême des États-Unis en refusant d'appliquer sa décision sur le mariage homosexuel. L'équilibre du Sénat américain est en jeu et Donald Trump a apporté son soutien à Roy Moore. Le candidat démocrate Doug Jones, ancien procureur fédéral de 73 ans, devra mobiliser la base démocrate et la minorité noire et une partie des républicains. Les résultats sont attendus ce soir à la fermeture des bureaux de vote.
Le Bangladais de 27 ans, auteur de l'attaque hier à la gare routière de Port Authority à New York, a été inculpé aujourd'hui de menaces terroristes selon la police new-yorkaise. Akaya Doula est aussi accusé de soutien à un acte terroriste et de détention illégale d'armes. Les précisions de Jacques Aristide.
Originaire de Chittagong au Bangladesh et habitant aux États-Unis depuis 2011, Akaya Doula a été arrêté hier, juste après la déflagration de l'engin qu'il portait sur lui, dans un passage souterrain très fréquenté qui relie Times Square à la gare routière de Port Authority. L'engin, qualifié de rudimentaire, n'a que partiellement explosé, ce qui explique le bilan de 3 blessés légers, malgré l'heure de pointe. Électricien et ex-chauffeur de taxi, il a lui-même été blessé dans l'explosion et hospitalisé. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a indiqué hier que le suspect avait été inspiré par des groupes djihadistes et s'était radicalisé sur Internet. D'après plusieurs médias américains, Akaya Doula a indiqué aux enquêteurs qu'il voulait se venger des frappes américaines contre le groupe État islamique en Syrie et ailleurs. Oula vivait à Brooklyn avec sa mère, sa sœur et deux frères et possédait une carte verte de résident aux États-Unis. Il a un casier judiciaire vierge dans son pays où il s'est rendu la dernière fois le 8 septembre, selon le chef de la police du Bangladesh.
Le président américain Donald Trump a dénoncé mardi, donc aujourd'hui, les histoires inventées des femmes qu'il accuse de comportements sexuels déplacés. Ces trois femmes qui avaient déjà mis en cause Donald Trump durant la campagne se sont retrouvées ensemble hier sur un plateau de télévision. Elles réclament au Congrès l'ouverture d'une enquête. Les Américains estiment que leur société est bien plus corrompue qu'elle ne l'était depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, selon une étude de Transparency International sur la perception de la corruption. Le sommet sur le climat, baptisé le One Planet Summit, a ouvert ses portes à l'ouest de Paris. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont présents pour soutenir une action. La rencontre est marquée par le retrait annoncé des États-Unis de l'accord de Paris de 2015. Le point avec Raïssa Girondin.
Sous les airs d'une COP 21 bis, le One Planet Summit rassemble plus de 50 chefs d'État et de gouvernement. Le président français, Emmanuel Macron, est l'hôte de cette rencontre.
On doit tous bouger, parce qu'on aura tous à rendre compte.
Ce sommet consacré au financement cherche d'abord à s'assurer de qui va payer la note et comment. Les pays du Nord avaient promis 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 aux pays du Sud, moins pollueurs et plus affectés par le réchauffement climatique. Au titre des grands absents, le président Donald Trump, qui a décidé de sortir de l'accord de Paris, mais l'ancien maire de New York Michael Bloomberg, le gouverneur de Californie ou le milliardaire américain Bill Gates sont sur place. D'ailleurs, la fondation Bill Gates a promis de financer 315 millions de dollars pour soutenir la recherche en agriculture afin d'aider les agriculteurs les plus pauvres, notamment en Afrique, à s'adapter au changement climatique.
La France a identifié 150 à 200 banquiers occultes du groupe État islamique, principalement au Liban et en Turquie. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui TRACFIN, le service du ministère français de l'économie, chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les pays membres de l'OTAN ont décidé aujourd'hui de renouveler jusqu'en 2020 le mandat du secrétaire général Jens Stoltenberg en l'assurant de leur pleine confiance sur fond de tension avec la Russie de Vladimir Poutine. Et puis, les autorités russes ont bloqué, à 3 mois de la présidentielle, les sites internet des organisations étrangères désignées comme indésirables. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le FMI, satisfait par les efforts d'assainissement des finances publiques et les réformes structurelles au Bénin, la directrice du FMI, Christine Lagarde, a promis de soutenir le plan quinquennal béninois.
Là, je me réjouis que les réalisations soient en place et qu'on ait pu, dans les délais prévus, tenir le conseil d'administration et débourser la tranche de financement d'à peu près 22 millions de dollars. C'est ça le vrai bonus. C'est le respect des engagements de part et d'autre.
Christine Lagarde à Cotonou, au Bénin. Le Maroc injecte près de 1,5 milliard de dollars dans l'industrie automobile. Des constructeurs automobiles français vont implanter 26 usines de sous-traitance. Ces investissements vont faciliter la création de plus de 11 000 emplois directs. L'industrie automobile a atteint un chiffre d'affaires à l'export de plus de 7 milliards de dollars et vise plus de 10 milliards de dollars d'ici 2020. Enfin, aux États-Unis, une enquête de Transparency International sur la perception de la corruption indique que 44% des Américains interrogés estiment que la corruption est un problème endémique à la Maison-Blanche. En 2016, la moitié des sondés estimaient que le gouvernement avait échoué dans sa lutte contre la corruption. Ils sont désormais 70% à penser ainsi.
L'info sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Nouvelle défaite pour le WAC Casablanca à la Coupe du Monde des clubs.
Et oui, le Wydad Athletic Club battu à Abu Dhabi dans le match pour la 5e place. Les Japonais d'Urawa s'imposent 3-2. La première demi-finale oppose ce mardi les Mexicains de Pachuca, tombeurs des Marocains face aux Brésiliens de Grêmio. Autre demi-finale, ce sera demain entre Al Jazeera Abu Dhabi, le club du pays organisateur, face au Real Madrid, favori pour cette compétition.
Malgré la suspension, la Russie va laisser ses athlètes participer aux JO d'hiver 2018.
Les instances olympiques russes ont confirmé la participation sous bannière olympique des sportifs russes aux Jeux olympiques d'hiver de 2018. Une semaine après la suspension du pays par le Comité international olympique, le CIO a décidé, souvenez-vous, la semaine dernière, d'exclure la Russie de ces JO en Corée du Sud, n'autorisant à participer les sportifs russes propres que sous de strictes conditions sous la bannière olympique, en raison évidemment du scandale de dopage institutionnalisé frappant le pays. Au total, environ 200 athlètes russes pourraient participer à ces Jeux. C'est un chiffre équivalent à ceux de Sochi en 2014.
JO 2020, le CIO juge que Tokyo sera à l'heure.
Les sites olympiques de Tokyo seront prêts pour 2020, a jugé le Comité international olympique au début d'une visite de 3 jours au Japon. Fin 2015, le coût du futur stade olympique avait provoqué l'indignation de l'opinion publique et poussé le gouvernement à abandonner le projet initial de l'architecte Zaha Hadid pour un autre près de 2 fois moins cher, conçu par l'architecte japonais Kengo Kuma.
Enfin, NBA, championnat de basket nord-américain.
Houston toujours en forme après sa 6e victoire d'affilée contre la Nouvelle-Orléans, 130-123. Ça va bien également pour Golden State face à Portland, 111-104. Boston, premier de la conférence Est, a chuté à Chicago, 85-108. Et puis la série de 6 victoires de suite des Toronto Raptors a pris fin hier face aux Clippers de Los Angeles, 91-96.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Et nous ouvrons sur le Burundi. Le président Pierre Nkurunziza a lancé ce mardi des activités relatives au référendum de la Constitution dans la province de Gitega, au centre de Bujumbura. Ce référendum approuvé en Conseil des ministres va abolir l'article sur la limitation des mandats présidentiels selon les opposants. Des politiciens de l'intérieur du pays et ceux qui ont fui ne veulent pas que l'on touche à l'accord de paix et de réconciliation signé en 2000 à Arusha. Reportage de Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura.
Un projet d'amendement de la Constitution qui fera l'objet d'un référendum populaire à une date qui n'est pas encore précisée a été dernièrement approuvé par le Conseil des ministres au mois d'octobre de cette année. Le président burundais Pierre Nkurunziza a lancé officiellement les activités relatives à ce référendum dans la commune de Bugendana, province de Gitega, au centre du Burundi, devant tous les administrateurs et gouverneurs du pays. Désormais, il y aura un président qui va légiférer, un premier ministre, chef du gouvernement, les deux issus de la même famille politique et un vice-président d'une autre formation politique, selon le dernier Conseil des ministres. 77 articles de la Constitution vont changer, tandis que 3 vont être enlevés. Le président Pierre Nkurunziza a appelé les présidents des partis politiques à avoir un comportement exemplaire.
Aux présidents des partis politiques, nous leur demandons d'afficher un comportement exemplaire, digne de véritables démocrates qui aiment leur pays. Ils ne doivent pas non plus travailler contre ces activités de lancement du référendum de la Constitution. Les politiciens doivent expliquer ce projet en respectant les lois en vigueur.
Les membres de la société civile burundaise ne doivent plus non plus se mêler avec la politique, selon le président burundais.
Nous avons vu dans un passé récent et même aujourd'hui que la société civile ainsi que les organisations apolitiques collaborent avec certains politiciens qui se sont égarés en voulant faire tomber le pays dans le précipice. Nous leur demandons d'être coopératifs en expliquant ce projet de référendum à la population sans se mêler de la politique, car chacun doit faire son travail.
Et pour Agathon Gwasa, vice-président de l'Assemblée nationale burundaise qui avait reçu l'invitation mais qui ne s'est pas déplacé pour la circonstance, des zones d'ombre subsistent.
La Constitution, oui, les modifications, d'accord, mais pour satisfaire à quel besoin? Si c'est juste pour que le président Nkurunziza soit président à vie, quelle sera la valeur ajoutée dans la vie de cette nation? Si c'est pour qu'on aille vers un monopartisme d'État ou de fait, ça sera quelle valeur ajoutée comme modification de la Constitution? Donc voilà tout un tas d'interrogations qu'on peut se faire et qui malheureusement ne vont pas trouver de réponse dans le format de la Constitution que l'on projette soumettre au référendum bientôt.
Il est à rappeler que le quatrième round des pourparlers inter-burundais d'Arusha n'a pas permis d'obtenir un accord entre les protagonistes politiques burundais et les sujets qui fâchent, dont la question des mandats présidentiels, reste légion. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Direction Gawa, au Burkina Faso. C'est dans cette ville que se tiendra la commémoration officielle de l'indépendance du pays. La région est marquée par l'orpaillage, dont les effets sont contrastés sur son développement. Le reportage à Gawa de notre correspondant Issa Napon.
Nous sommes ici sur le site d'orpaillage de Dikondi, à quelques encablures de la ville de Gawa. C'est la capitale de la région du sud-ouest et chef-lieu de la province du Puni, devenu un site à ciel ouvert, tant l'orpaillage a pignon sur rue. Ils sont plus d'une centaine de personnes chaque jour à creuser, concasser et laver pour trouver de l'or dans une certaine vie communautaire, explique Yaya Traoré, alias Koroba, orpailleur.
L'or a fait beaucoup de choses. Beaucoup, ils ont gagné, ils ont payé des voitures même, des motos. Moi-même, seulement j'ai payé des motos. Je suis en train de construire même. Ici, si on trouve que quelqu'un qui est malade, on fait réunion. Chacun n'a qu'à donner contribution. On va prendre la personne là, aller à l'hôpital soigner. Quand on va concasser comme ça, aller à la machine, écraser, venir laver, on met au mot et puis on mélange. Ça devient comme banco. Tu finis maintenant et c'est là-bas, tu mets mercure et tu frottes pour que le mercure là s'attrape. L'or là. Mais sans mercure, l'or là, ça ne peut pas sortir.
L'exploitation artisanale de l'or ici est une préoccupation majeure pour la population autochtone. Les conséquences de la déscolarisation des jeunes, des conflits et maladies en tout genre reviennent fréquemment, soutient Idrissa Tou, directeur provincial en charge de l'action sociale et de la famille de la province.
C'est une activité qui est la source même des conflits intergroupes ou intercommunautaires. Si ça devient un conflit intercommunautaire, ça nous revient sous forme de personnes sinistrées ou bien de personnes touchées par une crise à gérer aussi. Et ces orpailleurs-là, nous les sensibilisons à la nécessité de ne pas utiliser les enfants. Je pense qu'il y a le départ qu'il faut faire entre les travaux socialisants et les pires formes de travail qui sont interdites par la loi. Mais la réalité est triste. À chaque fois qu'on se rend sur un site, on ne peut pas ne pas trouver des enfants en train de travailler. Il faut réellement des moyens financiers aussi pour pouvoir régulièrement faire ces sorties de sensibilisation.
Un phénomène qui renvoie des effets contraires que ceux de résorber le chômage, comme cela pouvait être attendu, souligne le gouverneur de cette région du sud-ouest burkinabé, Taxé Banitima.
Quand vous allez sur les sites d'orpaillage, vous pouvez trouver 20 000 de nos jeunes qui travaillent là-bas. Et ce sont des personnes qui se nourrissent essentiellement de l'orpaillage et aussi qui rejouent du coup la question du chômage. Il devient un problème parce qu'il est anarchique, parce qu'ils utilisent des produits dont ils n'ont pas la maîtrise. Je pense au cyanure, je pense au mercure qui empoisonne les eaux et qui empoisonne notre environnement. Les jeunes qui devraient se scolariser, ils sont en train de déserter les écoles. Les problèmes ne manquent pas et souvent même ça entraîne des morts d'hommes. Mais il faut que la présence de l'État, des forces de l'ordre là, amoindrisse les conséquences de ces incidents-là. Et c'est là où nous demandons que les plus autorités d'État s'impliquent pour que nous soyons présents quand il faut l'être.
C'est un véritable village qui s'est créé autour de ce site d'orpaillage où les habitants essaient autant que faire se peut de travailler à la sueur de leur front afin de sortir de la pauvreté, à charge aux autorités de travailler à ce que les règles soient respectées et que les enfants, les élèves, les étudiants ne délaissent pas leur classe pour venir sur le site. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Et Kiabadou avec vous, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h en temps universel pour votre émission interactive à votre avis. Le Burundi impose une contribution volontaire pour organiser les prochaines élections de 2020. Souhaitez-vous contribuer aux frais électoraux dans votre pays? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur www.voafrique.com. Les bitcoins, dont l'émission a commencé en 2009, ont flambé cette semaine au point de dépasser les 17 000 dollars l'unité. Ce sont des unités monétaires virtuelles, décentralisées, que l'on peut échanger sur Internet. Ils sont stockés dans un portefeuille électronique. Et Kabadou a joint à Paris un spécialiste de la finance qui a requis l'anonymat.
Bitcoin, c'est un actif qui est similaire à des actions, mais ce ne sont pas des actions. Bitcoin aujourd'hui est ce qu'on appelle une monnaie digitale. En anglais, c'est ce qu'on appelle cryptocurrencies.
Quelle est la fiabilité de cette monnaie qui est virtuelle?
Ce qui fait que les acteurs ont confiance en cette devise, c'est le protocole informatique, le code sous-jacent de Bitcoin qui garantit la confiance des acteurs en cette devise. C'est-à-dire, il n'y a pas une banque centrale, contrairement à des fiat currency, à d'autres devises comme le dollar ou l'euro, qui sont garants de l'émission de cette devise. En termes techniques, pour pouvoir avoir un hacking ou pour pouvoir, si vous voulez, arbitrer ou déstabiliser cette devise, il faudrait que plus de 50% de tous les intervenants en même temps décident d'une action commune, ce qui est très peu réaliste au vu du nombre d'intervenants.
Alors là, vous expliquez quelque chose de très intéressant, puisque nous, on aimerait savoir, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir, quels sont les avantages et les limites de ce procédé.
Bitcoin agit exactement de la même manière que l'or, sauf que l'avantage par rapport à l'or, c'est qu'il n'y a pas de masse. Le problème de l'or, c'est qu'à partir de 60 000 euros, ça commence à déjà représenter 2 kilos. Pour envoyer des kilos d'or à quelqu'un pour payer avec de l'or, etc., vous voyez que la masse rend le processus très complexe.
Est-ce que c'est facile de souscrire?
Oui, c'est facile de souscrire. Je veux dire, il y a beaucoup de plateformes qu'on appelle ça des exchanges. Vous créez un compte et vous traitez. C'est pas compliqué, mais ce qui prend du temps, c'est d'accéder au marché via des devises locales. C'est-à-dire, en fonction des pays, aux États-Unis, je sais que c'est très facile, mais en France, en l'occurrence, il n'y a pas de canaux, de moyens qui permettent de transformer des euros en bitcoin facilement.
Et en Afrique, avec le franc CFA?
En Afrique, c'est possible. Tous les pays en voie de développement ou les pays plus plutôt émergents comme l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, etc., c'est même beaucoup plus avantageux au vu du coût des services financiers traditionnels. C'est-à-dire qu'il y a énormément de villages où aujourd'hui il n'y a pas d'une agence bancaire commerciale où les gens peuvent aller faire des virements, etc. Aujourd'hui, avec un téléphone portable et une application, ils peuvent avoir accès à ces services financiers qui, par ailleurs, leur coûteraient très cher au vu de leur distance géographique ou autre.
Voilà, ça donne des idées. C'était donc un spécialiste de la finance qui a requis l'anonymat.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. L'État hébreu s'en réjouit, mais le reste de la planète s'inquiète. Dans quel contexte s'inscrit cette décision du président Donald Trump? Quelles en sont les conséquences? Que signifie-t-elle pour le processus de paix au Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien? Et pourquoi le statut de Jérusalem est-il à ce point délicat? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Une histoire d'honnêteté devenue rare dans le monde. Un chauffeur de taxi à Londres a retrouvé sur la banquette arrière de votre véhicule, d'un véhicule, beaucoup d'argent, disons 50 000 euros plus de 30 millions de francs CFA. Et que fait le chauffeur? Eh bien, ce chauffeur somalien a tout fait pour retrouver les propriétaires et rendre l'argent. Une histoire peu commune que nous raconte notre reporter à Londres, Ridouane Hadj Abdiwali, le récit avec Solange Niamoulissa.
Un chauffeur de taxi à Londres est devenu le chauffeur le plus populaire après qu'il ait retourné 50 000 euros oubliés dans son véhicule. Mohamed Ahmed, 59 ans, nous dit que l'argent appartenait à un couple indien qu'il avait pris dans un hôtel à Londres.
J'ai pris deux passagers, un homme et sa femme, à l'hôtel Taj. Je les ai déposés sur la rue Régence. La femme a oublié son sac à main Gucci.
Ahmed dit avoir découvert le sac contenant l'argent après avoir déposé son prochain client.
Je ne l'ai pas ouvert immédiatement. J'avais une autre course. Je suis parti jusqu'à l'est de Londres. Dès que j'ai déposé mon passager, c'est à ce moment que j'ai ouvert le sac et j'ai trouvé l'argent.
Il ne pouvait pas le croire, mais il n'a pas hésité une seconde à retourner l'argent à son propriétaire.
J'ai décidé de retourner l'argent et de tout remettre au propriétaire.
Les employés de l'hôtel ne pouvaient pas croire que quelqu'un puisse rendre une telle somme.
Dès que je suis arrivé, le concierge les a appelés tout de suite et leur a dit « Le chauffeur est de retour avec votre sac, revenez vite à l'hôtel ». C'était émouvant pour eux parce qu'ils n'avaient jamais perdu quelque chose de cette valeur. S'il t'arrive de le perdre, tu es certain à 70% de ne pas le retrouver. Le mari et la femme m'ont remis une récompense de 450 livres.
Ahmed dit avoir remis cette récompense à la population somalienne affectée par l'explosion d'un camion piégé à Mogadiscio le 14 octobre dernier. Il s'est dit prêt à refaire le même geste si l'occasion se répète et il le fera, dit-il, sans poser de questions. L'association de taxis s'est félicitée de sa décision de retourner l'argent parce qu'elle veut montrer au public combien ses chauffeurs sont honnêtes.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook.